t'aimes le vivant, récolte l'urticaire. Qui sème le vivant, récolte l'urticaire.
Nous sommes sur Radio Escapade et c'est Fiona qui vous parle dans les micros. Je veux parler d'écologie en collant bord à bord des bouts d'histoire, des histoires de végétaux, de champignons, d'insectes, de vertébrés, de toutes les petites bêtes du monde microscopique. Et ces récits sont des récits de trajectoires, de nos compagnons, non humains, vivants, proliférants ou menacés, qui s'entremêlent à nos mondes d'humains pour les chambouler, s'entrepercuter ou pour leur plus grand malheur. Je m'inspire librement des méthodes de l'ethnobiologie et de l'histoire environnementale. Et je vais vous emmener explorer les marges de notre monde civilisé, ses coulisses, ses artères vitales. Aujourd'hui, je veux lire les paysages, comme on lirait un livre, pour mieux apprendre à connaître les humains qui habitent et façonnent ces paysages. Il s'agit, pour les auditeurs que vous êtes, de vous laisser glisser le long du fil de mes pérégrinations, qui tentent de suivre des signes, des pistes, des traces. Aujourd'hui, des signes, des pistes, des traces de différents arbres. Bref, des histoires de trucs vivants qui nous racontent des choses sur nos vies à nous, nous qui sommes vivants, sur une planète vivante, remplie de vie.
Qui sème le vivant ?
Récolte l'urticaire !
Aïe, aïe, aïe !
J'ai envie de faire commencer cet épisode un matin de 13 novembre. Finalement, je commence cette histoire presque par la fin. La fin de mes efforts pour tenter de dresser un portrait des châtaigniers cévenols, digne d'être raconté dans cette émission, ici, sur Radio Escapade, en plein milieu des Cévennes, le pays de la châtaigne. Au moment d'écrire cette émission, je suis plus si sûre de moi. Vraiment, encore une autre histoire de châtaigne ? Bah ouais. Après avoir discuté de l'écologie du tout petit, je voulais parler de l'écologie du tout autour de soi, tout autour de moi, de l'écologie des paysages. Et ici, c'est les châtaignes. Alors nous y voilà. Ça m'impressionne de parler de cet arbre à un auditoire qui le côtoie depuis sûrement bien plus longtemps que moi. C'est un parti pris. Et en toute modestie, je vous emmène goûter les paysages. Donc, c'est un 13 novembre. J'accompagne les copains de la ferme du Berquet depuis leur bout de vallée encaissé au-dessus de Saint-Hippo jusqu'à Saint-Romain-de-Caudière pour qu'ils vendent leur fameux pâté de châtaigne. C'est le jour de la fête de l'arbre. Il est tôt le matin et je me laisse transporter toujours plus haut dans le long de la route qui serpente dans cette petite voiture qui monte, qui monte, qui monte. Je vois les dernières lueurs de l'aube qui s'étirent au-dessus des collines cévenoles. C'est beau et je me rends compte pour la première fois que l'automne est arrivé. Les châtaignes et les châtaigniers ont sorti leurs petites robes dorées et toutes les bosses et crêtes du paysage se sont enflammées. L'automne dessine mieux les contours du paysage. Elle fait apparaître les taches vertes, vert sombre pour les épicéas. C'est les flancs de collines tout bien peignés, là, comme la tête des enfants de premier de la classe, avec la raie bien mise sur le côté, signe d'une forêt rangée comme il faut, ou enfin bref, signe d'une sylviculture bien implantée. Il y a un vert plus argenté pour les bosquets de chênes verts. Et puis, bon, de chênes verts en taches de châtaigniers tout orangés, on finit par arriver tout en haut, à Califourchon sur le col. Là-haut, à Saint-Romain-de-Caudière, j'ai d'un côté la ligne de crête du mont Lozère. De l'autre, les jumelles, les Twin Towers des Cévennes. Et derrière, la plaine héraultaise, et sûrement, encore après, là-bas, au loin, cachée dans les brumes de l'horizon, je suis sûre, il y a la mer. Entre mer et montagne poussent les châtaignes. Au pied des Dolomites, dans les plaines du Piave et de ma famille, au nord de l'Italie, poussent aussi les châtaignes. Et ici, dans l'arrière-pays montpelliérain, les châtaignes prolifèrent. Je vais vous faire écouter une archive sonore du patrimoine oral glanée sur patrimoine.org, tirée de la base de données interrégionale, dans laquelle j'ai intercalqué quelques petites ambiances de la fête de la châtaigne de la salle.
J'allais sous le châtaignier que je connaissais, le premier, à peine jour, pour aller ramasser les châtaignes. Et celles qui se conservaient les mieux, les châtaignes, c'est celles qui restaient dans les bocs, vous savez. Ils se conservaient. Ils desséchaient moins vite. Châtaignes, on faisait châtaignes bouillies, blé, châtaignes bouillies, avec du lait, les plaies, châtaignes avec du lait, c'est bon. Ça faisait un souper. À ce moment-là, c'était pas le souper tout le temps.
Chez moi, en Auvergne, on fait le fiatello et la pulenda. La pulenda, c'est la farine de châtaigne qu'on mélange avec de l'eau. C'est un plat de pauvres. Et on mange ça avec la saucisse l'hiver et puis du pain. Alors, figatello, c'est la saucisse au foie. Et la pulenda, c'est la farine de châtaigne plus du pain. Je pense que tu manges 1 cm² de chacune de ces, de chacun de ces mets et tu es calé pour au moins les 12 heures à venir.
Elle est moins cloisonnée.
Voilà.
Et elle est jolie et voilà. Et alors, on a décidé à ce moment-là, commercialement, qu'on appellerait marron tous ceux qui auraient moins de 12% de cloisonnement, comme la migoule. Donc la migoule est en marron maintenant, voilà.
Ah bon ?
Voilà. Mais moi, j'en fais la confiture.
C'est plutôt le
sévène.
C'est plutôt le
sévène ?
Ah d'accord, mais pardon.
C'est plutôt le sévène, je t'ai dit.
D'accord.
Entre les deux.
Ouais, de toute façon, je m'en doutais. Parce que...
Et on a eu le... C'était un insecte qui attaquait la sève. Ah, ils ont trouvé un insecte pour le manger. Ça a duré 3 ou 4 ans. Et ça a passé. Mais la dossia, ça recommence tout. Ça recommence tout.
Ah, ouais.
Et les châtaignes ne sont pas bonnes.
Les châtaignes ne sont pas bonnes. Elles sont noires.
Elles sont noireuses. Noires ou alors elles sont véreuses.
Mmh. Oui. Alors qu'on se rappelle d'une époque que c'était formidable,
je pense. Ah oui, ici, hein.
Ben ça.
Alors maintenant, il y a des nouvelles variétés qui s'appellent.
Nous, on n'en a pas, alors.
Ouais, c'est une nouvelle variété qui font des grosses châtaignes
des
comme
grosses,
ça.
Mais elles sont pas bonnes. Elles ont de grosses peaux, et puis.
Elles sont moins sucrées, moins goûtues.
Elles se vendent bien, elles exportent aussi.
Ah oui. Les gens, ils regardent la grosseur.
Il faut de l'eau. Il faut l'arroser. Ce qu'on n'a pas ici, en côte. C'est en bas, la rivière. Ça s'appelle des bétisacs, les nouvelles variétés qui plantent.
Ah, ça y est,
bétisacs.
Ça fait des grosses châtaignes, ça vendent bien. Mais elles ne sont pas bonnes comme nous, celles qu'on avait avant.
Entre mer et montagne, au nord de la Méditerranée, il y a donc la châtaigne. Je voulais en connaître plus sur cette légendaire civilisation de la châtaigne, cette organisation de quelques humains sur l'arc nord de la Méditerranée, autour de l'arbre châtaignier. Bon, bah, du coup, on les voit dans les collines, depuis le col de Saint-Romain-de-Caudière. On les voit sur les collines en terrasse des murets en pierre sèche, du pourtour méditerranéen en général. C'est une forme d'agriculture, c'est un paysage reliquat d'ancienne utilisation de ces collines. C'est des opportunités, des alliances possibles avec les chèvres ou les cochons sauvages. C'est aussi une architecture, un artisanat. Jean Ferrat chante le châtaignier. Moi, je vais vous le lire, je ne vais pas vous le chanter. Bien à l'abri, dans ma soupente, moi, j'entends chanter la charpente. Ce n'est pas du bois vermoulu. J'entends les poutres qui se plaignent de ne plus donner de châtaigne en supportant mon toit pointu. J'entends les vieux planchers qui craquent. J'entends du bruit dans la baraque. J'entends dans le grenier chanter, chanter mon châtaignier. Non, mon châtaignier n'est pas mort, étant donné qu'il chante encore la belle chanson d'autrefois. L'ethnobotaniste Alain Rousseau que je rencontre au hasard de mes pérégrinations ce matin-là de novembre sur les hauteurs de Saint-Romain-de-Caudière, me disait « Mais comment ça, vous voulez parler de châtaigne ? Mais tout a été dit sur la châtaigne. » Et c'est comme ça qu'il s'est enfui de mon micro et que je n'ai pas pu capturer ses paroles. Tout a été dit, je ne sais pas, mais beaucoup de choses ont été dites, c'est sûr, et ça m'impressionne un peu. On raconte que le châtaignier avait une large diffusion avant la dernière glaciation, c'est-à-dire il y a un paquet de millions d'années. Et il était un peu partout en Europe. Et les glaces, quand elles sont venues avec la dernière glaciation, elles l'ont repoussé petit à petit dans quelques niches écologiques. Bon, au nord de la mer Égée, vers l'actuelle Turquie, et dans la péninsule italienne, un peu. On raconte que les Grecs, puis les Romains, ont emporté partout avec eux les châtaigniers, d'un comptoir maritime à l'autre et au gré de leur conquête terrestre. L'arbre se redéploie, du coup, une deuxième fois à travers l'Europe, mais non plus selon un gradient écologique. Non, non, cette fois, il suit les humains. Enfin, c'est les humains qui l'embarquent avec lui. Les humains qui ont goût, le goût de ses fruits, ou qui aiment son bois imputrescible qui fait des bonnes poutres solides. S'il y a des châtaigniers partout, et on ne compte pas pour partout sur la pardon. S'il y a des châtaigniers partout, aujourd'hui au nord de la Méditerranée, on ne compte pas partout sur la châtaigne pour passer l'hiver. Alors qu'il y a des endroits comme en Corse, en Ardèche et dans les Cévennes où il y a des filières dites de transformation de la châtaigne qui sont du coup un marqueur que, au contraire, ici, on compte bien sur la châtaigne pour passer l'hiver et pour manger jusqu'aux prochaines récoltes du printemps. En l'honneur de ces terres qui se construisent accrochés entre les sommets et la mer, tout autour de la châtaigne. Et du coup, en l'honneur d'une île, en particulier la Corse, qui est le paradis de la châtaigne, je voulais nous offrir un petit rock, Like a Rolling Castagna de Doria Housset. C'est en Corse et je vous laisse écouter. Vous êtes toujours sur Radio Escapade et on parlait de châtaignes. L'historien Leroy Ladurie s'étonne dans ses recherches que les châtaignes n'aient jamais été taxées pendant le Moyen-Âge, ni ensuite. Et il se pose beaucoup de questions sur les réelles utilisations des fruits de cet arbre. Les châtaigniers sont des plantes pérennes, massives, en tout cas très visibles. Ils offrent un paysage très lisible, tel que les percepteurs des impôts adorent. Ça leur permet de bien estimer la récolte et de bien pouvoir venir ensuite récolter les impôts. Surnommé le grand nourricier des Sévennes, ou encore l'arbre à pain, le châtaignier est boudé par les puissants. Boudé par les puissants pour son côté nourricier. On aime beaucoup sa qualité technique, comme bois de charpente et ses produits dérivés tels que les tanins. Mais on n'aime pas, on ne taxe pas la châtaigne. Pourquoi ? C'est trop difficile à conserver. C'est considéré comme un mets accessoire, un produit de la cueillette, en complément. C'est un sous-produit de l'exploitation du bois et de la production justement des tanins. Un trésor de douceur, aux couleurs chaudes, niché dans un cœur de piquant pour le ventre qui a faim. Une denrée propice à ceux qui se cachent. C'était en tout cas la denrée hier des camisards et aujourd'hui des maquisards. Pour moi, le châtaignier garde beaucoup de mystères. Sa population explose au XIXe siècle. Aujourd'hui, des suites de l'exode rural, donc de plus d'un siècle d'exode rural et ensuite de maladies, ou des maladies et donc de l'exode rural. J'ai pas bien compris dans quel sens ça a fonctionné. 90% du parc Cévenol de châtaigniers ne serait plus que des friches, des enseignes châtaigneraies plantées, puis laissées à un développement libre, enfin libre de l'intervention de l'homme en tout cas. Donc les adjuvants humains du châtaignier, qui avaient allié leur destin l'un à l'autre, donc humains, châtaignes, se sont quelque part désolidarisés. Le tournant de l'industrialisation, puis de la mondialisation des marchandises, a séparé le chemin de ces humains et de la plante. En fait, plus que jamais, la châtaigne au début de l'automne au nord de la Méditerranée. Mais le châtaignier n'est plus déployé sur tous les espaces libres à libérer par les humains. Il est au mieux restauré et souvent beaucoup folklorisé. J'aime apprendre à lire et goûter les paysages que j'habite. Maintenant que j'habite les Cévennes, je voulais prolonger la saveur et la texture de la châtaigne par une meilleure compréhension des paysages qu'elle construit. Avant cela, j'ai eu l'occasion de vivre quelque temps sous les tropiques. J'ai eu donc d'autres occasions de lire et d'écouter des paysages. Et j'ai donc eu l'occasion de rencontrer d'autres humains qui avaient lié leur destin à une autre plante. Voilà, comme transition et voyage vers les rives du golfe de Guinée, je vous invite à écouter l'orchestre Baobab dans son interprétation du morceau « Sibam ». Thank you.
Oui, si bam, si bam la lama. Si bam, si bam, si bam la lama.
Si bam, si bam, si bam la lama.
Et tigna.
Si bam, si bam, si bam la lama.
Moi, pinkin, si bam, tangay, mel, ni kalo, tu babir. Sans dégni, tu restes comme si bam la lama.
Si bam, si bam, si bam la lama. Si bam, si bam, si bam la lama.
Moi, t'es bam,
si bam, si bam,
si bam, si bam, si bam, si bam,
si bam, si bam,
si bam, si bam, si bam, si bam, si bam,
si bam, si bam, si bam,
si bam, si bam, si bam, si bam, si bam,
si bam, si bam,
si bam, si bam, si bam,
si bam, si bam,
si bam, si bam, si bam, si bam, si bam, si bam, si bam,
si bam,
si bam,
si bam, si bam, si bam,
si bam, si bam, si bam,
si bam, si
Ah,
on est toujours sur Radio Escapade. On a sauté des branches dénudées des châtaigniers Sevenol pour atterrir à l'ombre d'un palmier en Afrique subsaharienne. On ne parlera pas de n'importe quel palmier, mais de l'incroyable Eleanis guineasis, le palmier originaire du golfe de Guinée, que vous connaîtrez sûrement plus sous le nom de palmier à huile. De même que les Sevenol se considèrent comme biberonnés par le châtaignier, les Soussous de Guinée maritime, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, se considèrent comme les enfants du palmier. Ils se nourrissent de la chair de son fruit et cuisinent avec son huile rouge, presque dorée. Ils lavent leur corps et leurs habits avec les savons qu'ils produisent à partir de la noix du fruit. Ils construisent leur maison avec ses parties végétatives, se soignent avec son écorce. Ça ressemble vachement aux Cévennes, mais ça ne parle pas de châtaignier et c'est la brousse. Le palmier est dans ces paysages le marqueur du passage de l'homme et on ne sait plus trop qui de l'homme ou du végétal a domestiqué l'autre. Bien après la mort d'un village, alors que les cases se sont dissoutes et que la noirceur des foyers ont été ensevelis, les bosquets villageois de palmiers à huile continuent de marquer ces endroits.
En France, ici, j'ai entendu que l'huile de palme n'est pas bonne pour la santé. Bah, j'ai pas cherché à comprendre parce qu'on est né dedans, donc on a toujours mangé l'huile de palme et on a un bon santé.
L'huile, c'est bon, on peut consommer dans tout. Même les bananes plantains. On peut prendre, tu peux prendre banane plantain, tu fais bouillir, tu fais ça, tu, ça donne un effet, tu peux mettre huile rouge, ça donne foufou. C'est comme une nourriture en Côte d'Ivoire. Même la tchéké, tu peux mettre, on peut mettre l'huile rouge dedans, ça donne notre. On appelle ça quoi. Il y a plein de choses au fait. Mais c'est un truc, c'est naturel, c'est mieux quoi. C'est mieux à consommer et puis c'est bon.
Est-ce que ça a un goût particulier, l'huile rouge?
Ben oui. Oui. Si tu prépares avec du condo, il y a un goût, même si tu manges ça, tu vas sentir, c'est un truc du pays en fait, tu vois. Par rapport, parce que c'est naturel, on n'a pas mélangé, on n'a pas raffiné ça ou mettre de quoi que ce soit. Donc c'est naturel quand tu prépares ça. Même si quand tu es en train de manger, donc tu vas savourer ça, tu diras vraiment waouh, ça c'est des bio. Tu vois, donc c'est ça la différence. Parce que il y a des autres aussi qui aiment préparer aussi le pondou avec l'huile normale comme ça. Mais par contre, avec les sarasaka, l'huile rouge, c'est au top quoi. Parce que quand tu manges, donc tu sens vraiment tu manges dans les trucs des pays. Donc tu manges vraiment, donc c'est bien. Un jour si tu veux, tu peux essayer. Hein? Oui.
Vous avez préparé un peu l'huile du coup?
Oui, oui, oui. Moi, quand j'étais en Afrique, je faisais ça tout le temps. C'est efficace, c'est très bien. C'est naturel, le fait.
L'huile de graines encore qui est très, très bon.
Il y a deux différentes sortes d'huile. Ouais. Il y a l'huile de palme qui est rouge et il y a l'huile des graines de palme. L'huile des graines de palme. Ouais. Ça n'a rien à voir avec l'huile des palmes. Ça aussi, c'est on les appelle les amandes des palmiers. Ça aussi, ça donne de l'huile. Ça, c'est 100% naturel et bio. On fait sortir de l'huile, on fait du savon, on fait de la pommade et on prend aussi pour faire, pour cuire, pour frire la loco. Ou soit frit la viande, fait la sauce, tout ça, c'est bon.
Il y a l'huile rouge et l'huile de friture.
Voilà.
Moi, ça aussi avec les pains.
Oui, 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 avec du pain. Huile de palme. Huile de palme, elle est vraie, vraie.
Tu bien mets raffinée. Ça comme ça.
Tu mets ça comme ça, oh là comme là. Du beurre.
Comme lorsque tu vas manger.
Oh. Là, tu me rappelles les trucs de pays, là. Tu me rappelles des trucs de pêche, je te jure.
Huile rouge, il y a quoi encore? Il y a huile rouge, on peut faire un gombo, en fait, beaucoup de choses. Même si tu as consommé du poison, que tu vois, tu bois huile rouge, tu rends tout.
Quand on est constipé et tu prends l'huile de palme, ça nettoie. C'est, voilà, ça nettoie et puis...
C'est bon pour la peau.
Pour la peau, tout ça passe. Bien. Donc même si toi tu achètes ici de crème de 100 euros, moi j'utilise ça. Ça passe, même si tu vois la couleur de ma peau. Trop bien. Ça,
chez nous, le nouveau-né,
huile de palme.
Huile de palme, tu vas lui masser. Donc la faille va être lisse et puis.
Grandisse très bien.
Donc c'était un petit collage sonore d'un micro-trottoir que j'ai réalisé il y a de ça quelques temps. Pas du tout en Afrique, mais dans les restaurants africains d'Aubervilliers et autour de la station de métro Château d'Eau à Paris. C'est une zone de forte concentration et d'extraordinaire représentation de toutes les populations de l'Afrique de l'Ouest. Et c'était le meilleur endroit au monde pour parler des douceurs culinaires du palmier à huile. Pour continuer à vous expliquer par le goût, les paysages d'Afrique de l'Ouest, je voulais vous lire les mots de l'ethnobotaniste Elisabeth Lesiak. Pardon. Elle a fini sa thèse en 2007. C'était une thèse en ethnobotanique sur le palmier en Guinée-Maritime. Et elle nous dit « L'huile rouge est un fétiche. Elle est manipulée dans les pratiques magiques alors que les guérisseurs enduisent de ce corps gras statuettes et objets aux frontières des mondes invisibles. La transformation de la pulpe ne représente qu'une des nombreuses variations du palmier. L'amande est aussi prélevée après chauffage et concassage des graines. Le savon noir, potasse extraite des cendres végétales associées à cette huile de palmiste, est un agent de purification. Le bain accompagne les traitements de la médecine traditionnelle. Certaines étapes de vie, des états physiologiques particuliers, autant de situations qui nécessitent, dans une certaine mesure, de se libérer du mal ou de se protéger. Au cours d'autres procédés thérapeutiques, la graine du palmier est déposée au fond du chaudron où se fait la décoction des médicinales, empêchant toute intervention des forces maléfiques, les fonctions protectrices du palmier à huile sont ici mobilisées. Donc, cette plante et son huile ont longtemps été une source précieuse de trésorerie pour une certaine catégorie de femmes du golfe de Guinée. Et c'est surtout l'habitat privilégié des chimpanzés, ces grands singes d'Afrique. Dans les paysages de la brousse, bien après la mort d'un village, alors que les cases se sont dissoutes et que la noirceur des foyers était ensevelie, les bosquets villageois de palmiers à huile qui entouraient ces villages continuent de marquer ces endroits. Les humains n'y habitent plus. Le chimpanzé vient s'y goinfrer. Chimpanzés, humains partagent en se succédant ces mêmes espaces. Le grand singe, dans sa gourmandise, participe lui aussi à disséminer les palmiers sur son sillage. Il marque à son tour le paysage de ses pratiques et attire ainsi, derrière lui, les humains à la recherche de fruits pour leur huile de palme. La légende raconte d'ailleurs qu'il n'y a pas si longtemps, le chimpanzé était un homme qui fut déchu, un cousin que l'on respecte et avec lequel on cohabite en Guinée. Pourtant, je m'imagine bien qu'en vous parlant du palmier à huile, avec autant de poésie, je vous fais tiquer depuis tout à l'heure. Quand on parle du palmier, ou plutôt de sa fameuse huile de palme, on pense à tout autre chose. Et je vous ai préparé un petit collage de ma fabrication. Je vous laisse écouter.
L'huile de palme est un trésor. C'est la plus onctueuse et surtout la moins chère. La planète est accro à une huile qui la détruit, un comble. La maison brûle, ou plutôt la forêt se consume à Bornéo, en Indonésie, pour laisser place nette à un désastre écologique, la monoculture.
Mais aujourd'hui, le poison des plantations de palmiers est dans le fleuve. Il n'y a que les étendues infinies des plantations d'huile de palme.
Il faut tâcher d'abord, pour ne pas déforester, d'utiliser l'huile qui a le meilleur rendement à l'hectare. Et là, c'est l'huile de palme.
Depuis peu, certains pensent avoir trouvé une parade, l'huile de palme durable. Une huile qui ne peut provenir que des surfaces agricoles existantes et non de la déforestation. C'est ce que défend depuis des années le WWF.
On ne va pas tourner autour du pot. La qualité chez Nutra, c'est notre choix.
Et c'est plus que ça. Nous choisissons l'huile de palme pour préserver les arômes et l'onctuosité de Nutra.
Si vous aimez les singes et la pâte à tartiner, il existe un geste très simple, la confectionner vous-même.
L'huile de palme durable, foutaise. Pour faire pousser leurs palmiers, il faut avant tout brûler la forêt, sacrifier flore et faune.
Il y a des hommes dans ma forêt et je ne sais pas quoi faire. Pour fabriquer ton shampoing, ils la transforment en cimetière. Il y a des hommes dans ma forêt, il ne manque vraiment pas d'air. Ils m'ont privé de ma mère et bientôt viendra mon tour. Il y a des hommes dans ma forêt. Elles se meurent jour après jour. Tout ça pour de l'huile de palme. Ta maison est bien plus calme.
Présent dans la moitié des produits de grande consommation.
Margarine, pizza pré-cuite, chocolat.
Biscottes, céréales, pâte à tartiner, viennoiserie.
Ouvrez l'œil et renoncez aux produits qui contiennent de l'huile de palme.
Vous connaissiez l'huile de palme dans les pâtes à tartiner, peut-être moins dans les moteurs de voiture. Pourtant, 75% des importations de cette huile servent à fabriquer du biocarburant. Le pétrolier Total, qui va ouvrir une raffinerie, va donc en importer 450 000 tonnes par an.
C'est pas Versailles.
La mesure est entrée en vigueur hier. L'Indonésie suspend toutes ses exportations d'huile de palme. Une huile critiquée, mais qui n'en demeure pas moins l'huile végétale la plus consommée au monde.
En dépit de sa réputation,
épouvantable réputation, on peut le dire. L'agroalimentaire ne parvient pas à se passer de l'huile de palme.
L'approvisionnement de la population est la plus haute priorité, a dit le président indonésien. En tant que plus gros producteur d'huile de palme, il est ironique que nous ayons des difficultés à obtenir de l'huile de cuisson, explique-t-il. Alors,
la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est la raffinerie de Total à La Mède, qui va utiliser de l'huile de palme importée de Malaisie et d'Indonésie pour fabriquer ses biocarburants. Nos agriculteurs craignent que ces importations viennent concurrencer nos productions de colza français. Au-delà de l'huile de palme, ils réclament...
Make our planet great again. Thank you.
Voilà, c'était un petit collage fait de pubs de multinationales qu'on ne nommera pas, de campagnes de Greenpeace, d'extraits de journaux télévisés et de chroniques radio. C'était pour rétablir un petit peu... la balance. Je sais bien ce qu'est l'huile de palme partout ailleurs. Et pourtant, c'était justement ça qui m'intrigue et qui me donnait envie de vous en parler. C'était cette haute palmier à huile, celui dont on ne parle pas, et, alors que celui dont on parle tout le temps, c'est celui qui, sur d'autres continents que celui africain, même si petit à petit il y revient aussi, ce palmier qui a été transporté par le commerce des hommes et démultiplié sur des espaces considérés comme infinis. C'est l'huile de palme et c'est lui qui déforeste. Et il déforeste, il exproprie, il désertifie les sols. Il transforme les agriculteurs en salariés asservis ou en capitalistes à succès. Et en tout cas, il finit toujours par régaler tout un chacun avec ses pesticides. C'est le rouleau compresseur du système plantation qui se met en branle. Et c'est celui-là qu'on connaît et qu'on raconte partout. Il déracine plantes et humains pour mieux les assigner à une tâche si étrange, celle du progrès, celui de la pâte à tartiner. La plante, le palmier, alors ne nourrit plus, n'habite plus, ne soigne plus et ne permet à personne de s'émanciper ou de glaner par-ci par-là des sources de trésorerie. La plante ne permet plus de cohabiter avec nos cousins les grands singes, ces hommes de la forêt, puisque c'est ainsi qu'on les nomme en indonésien. Orang-outan, orang-hutan, littéralement. Orang, l'humain, hutan, la forêt. Les hommes de la forêt, nos voisins, ils sont juste compressés par la plantation, écrasés. Cette plante, le palmier, c'est plus tout à fait une plante libre que les hommes et les singes dispersent presque comme accident, comme j'ai pu l'observer dans la brousse guinéenne. C'est un hybride. Attention, préparez-vous. C'est un hybride F1, une plante produite par et pour le système plantation, avec sa marque déposée. C'est une plante issue d'un croisement de deux parents peu productifs du point de vue de la plantation. Il y a le géniteur 1, Piscifera. Il présente une très forte stérilité femelle et donc il est peu productif. Mais il intéressait nos producteurs de palmiers à huile pour le marché international, d'huile de palme, parce que sa pulpe est très riche. Et il y a le géniteur 2, qui, lui, était celui originaire de la brousse africaine. Il a un faible rendement. Et ces deux géniteurs, eh bien, si on les assemble ensemble, ils vont donner un enfant, la fameuse génération F1, et cette variété Dura, qu'on ne peut produire que dans des pépinières végétales. Et que l'on ne peut reproduire donc qu'en les achetant, moyennant de l'argent. Donc, ce fameux palmier Dura se trouve être un extraordinairement productif et adapté au progrès, bien plus que son ancêtre qui ondule l'ombrement avec son plumeau au vent dans la brousse des pays guinéens. Cet hybride F1, c'est plus tout à fait une plante. C'est une marchandise. En Guinée, les palmiers Dura, qu'il faut acheter en pépinière, sont appelés les Fotetougui. Littéralement, ça veut dire les palmiers des Blancs. Ce sont les palmiers des autres. Ces humains, qui avaient allié leur destin à celui de cette plante, ne la reconnaissent plus et ils la décrivent désormais comme une plante étrangère. Je vous laisse avec ce petit conte en musique sur les orangs-outans des blaireaux de Ravel.
C'est une légende de Bornéo qui nous a inspiré cette chanson.
À Bornéo,
on raconte que les orangs-outans, les grands singes oranges, sont dotés de la parole comme vous et moi, messieurs, dames, et qu'ils refusent de parler pour éviter que l'homme les fasse travailler. Eh ben nous c'est pareil, nous on veut pas bosser, alors on va se taire. Pour plus faire exploiter, on va partir au loin. Oubliez votre chemin et toutes vos exigences. Nous, on s'en lave les mains. Laissez derrière nous tout ce fric, on s'en fout. Vos médailles à la con et vos promesses bidons. Car les jeux des gamins nous font bien plus rêver. Alors on joue aux singes et on va s'évader dans une petite forêt, sans banquier, sans prêt, qu'il faudrait rembourser sur une trentaine d'années. C'est belle la vie du haut de notre arbre, mais il a fallu que vous nous retrouviez pour nous foutre en cage et nous faire payer nos rêves de partage et de communauté. On voulait pas bosser et pas participer au budget de ces bombes qu'on n'avait pas demandé. Mais le jeu du silence était bien cher payé. Aujourd'hui comme tout le monde, on a des chaînes aux pieds.
Vous êtes sur Radio Escapade et à ce stade de l'émission, on ne sait plus trop bien si le palmier à huile nourrit ou affame. Est-ce un mets raffiné qui nous rappelle les saveurs de notre enfance ou la poudre de perlimpinpin qui permet à l'agro-industrie de nous faire avaler n'importe quoi, pourvu que ce soit en grande quantité. Il faut savoir que cet autre palmier, le deuxième, là, celui dont on a parlé, qui déforeste, exproprie, qui nourrit ou pas tout à fait. Bref, le palmier, l'huile de palme industrielle, eh bien, il dessine des paysages que j'ai aussi habités. J'ai travaillé quelques mois à Kalimantan Timur, dans la partie indonésienne de l'île de Bornéo. C'était précisément dans le delta de la Mahakam, une espèce d'archipel protégé par les mangroves qui a été pendant longtemps un repère de brigands et de pirates des mers. Il était habité par des crocodiles et les îles sur lesquelles on pouvait habiter avait des sources d'eau saumâtre. C'était un lieu étrange et fortement exotique pour moi. C'est un lieu aussi qui a été découvert par les pétroliers pour y être un très très riche gisement. Et depuis, ça fait plus de 50 ans, les investisseurs en herbe y ont fleuri. Les samouraïs des mers ont déposé leurs sabres et ont laissé la place aux investisseurs, souvent peu scrupuleux, de l'huile de palme. Je me souviens aussi du goût, du coup, et des paysages de cette huile de palme industrielle, des couloirs infinis de palmiers, ces petits palmiers pas du tout élégants, avec un plumeau au vent, ces petits palmiers tout trapus. Je me souviens des camps de travailleurs. Et je n'ai pas très envie d'y retourner. J'ai beaucoup aimé la Guinée, mais pas les champs de palmiers à huile. Je me demande, en repensant à ces paysages que j'ai habités et que je vous ai racontés aujourd'hui, mais ces paysages que j'ai aussi goûtés, je me demande comment ces deux trajectoires entre des arbres et des hommes ont pu bien prendre des tournures si différentes. L'industrialisation de nos modes de vie et la mise en compétition sur un marché international des matières premières ont eu des impacts vraiment différents sur ces alliances hommes-plantes. Dans le premier cas, Sevenol, la plante et les humains sont toujours là, mais avec une alliance qui est toute à réinventer, avec une alliance qui est plutôt marquée encore dans les paysages, comme presque une trace archéologique de ce qu'a été la grandeur de cette alliance au XIXe siècle. Puis dans le deuxième cas, eh ben y a cette histoire du palmier à huile qui a complètement échappé aux habitants d'Afrique de l'Ouest et tellement bien que finalement ils le reconnaissent plus. C'est plus leur palmier, c'est un autre palmier. Il s'est d'abord déployé de manière illimitée sur d'autres continents. On connaît bien l'exemple de Bornéo, mais les plantations de palmiers à huile d'Amérique latine ne sont pas en reste. Et quand petit à petit elles commencent à s'implanter sur le territoire africain, ben c'est comme si c'était une plante qu'ils ne connaissaient pas. Et en guise de conclusion, maintenant qu'on s'approche de la fin de cette émission et qu'il va falloir que je pose mon casque et que je sorte du studio et que j'aille faire mes petites courses dans les rayons du supermarché de Saint-Hippolyte-du-Fort, je me demande si je vais trouver du pâté de châtaigne agrémenté à l'huile de palme. Qui sait ?
Qui sème le vivant récolte l'urticaire.
Sème le vivant, récolte l'urticaire.